Bonjour à tous. Là donc c'est pas une vision, on a écouté pour l'instant des philosophes, un politiste, enfin un sociologue. Voilà, donc je suis sociologue et politiste. Je présente un papier donc, qui s'appelle « L'impératif pédagogique dans la rhétorique politique » et sans plus attendre. Première phrase d'ouverture, vous aurez grand plaisir à retourner à notre chef de l'État. Je ne fais pas de la politique, j'essaie de faire de la pédagogie. Discours de l'an passé, un discours déjà ancien, excusez-moi. Sens de la formule, certes, largement. Ça ouvre des discussions assez larges, le fait même de choisir ce mot de pédagogie, comme on va le voir dans quelques instants. Donc, pour aller assez rapidement sur les objectifs de cette communication, l'enjeu est d'observer comment donc, une rhétorique environnementale s'est progressivement développée dans la rhétorique politique, et notamment en matière d'environnement. Ensuite, évidemment, bon, il y a toute cette idée de mettre en lumière les logiques sous-jacentes dans lesquelles ça se décline, cette rhétorique, c'est-à-dire notamment tout ce qui va être dispositif informationnel, campagne de communication, de sensibilisation. Les documents que nous a montrés, notamment Hélène Régnier, sont assez parlants. Tout ça en vue d'encourager l'adoption de pratiques dites éco-responsables. Encore faudrait-il définir ce qu'on met derrière responsable dans ce cas-là. Enfin, troisième ambition un peu de cette communication, essayer d'amorcer une analyse pragmatique de l'activité politique avec cette idée de domestication des pratiques individuelles, on y reviendra tout à l'heure, en quoi il s'agit ici malgré tout de faire articuler, d'observer à la fois donc, des conduits de gouvernement, une pratique spécifique à travers un langage, un mode argumentaire qui est celui de la rhétorique pédagogique, et à la fois donc, une ambition politique qui est celle d'un gouvernement des conduites. On retrouve ici toute l'idée de Foucault. Donc premier élément, c'est toujours un peu cliché de faire ça, mais pour comprendre aussi quel est l'intérêt de se bloquer sur ce mot si particulier de pédagogie, revenons à l'étymologie. La pédagogie, donc c'est l'accompagnement des enfants. L'objectif initial de la pédagogie de longue date, c'est donc guider les jeunes populations dans le droit chemin, avec cette idée de permettre l'acquisition d'un sens moral à travers l'école. Alors là, on retrouve des écrits anciens, je reprenais Durkheim qui en parle, mais également Piaget. Et un enjeu, donc, former de futurs adultes conformes, respectueux des normes en vigueur, ces normes qui, dans un cadre, là on pourrait parler d'un cadre hégémonique, où on a une moralité dominante, portée par des entrepreneurs de morale, pour reprendre la formule de Becker, et qui s'impose. Donc depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, la pédagogie est devenue une vraie activité avec le développement des sciences de l'éducation. Je ne reviendrai pas là-dessus longuement, avec le développement de nombreuses théories pédagogiques sur un concurrentiel, l'appropriation différenciée par des éducateurs sur le terrain, et effectivement des pédagogies qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas. On n'est pas forcément là pour parler de pédagogie en tant que telle, donc je vais un peu avancer. Et voilà, et depuis la fin du 20e siècle, c'était un peu l'hypothèse de départ de ce papier, c'était le sentiment que on appliquait ce qui était d'abord une activité de guidage des enfants en direction d'adultes, et que ça venait petit à petit s'imposer dans le langage politique. Donc pour essayer de vérifier un peu cette hypothèse, une méthodologie très simple, une analyse textuelle ciblée, du Canti du Cali, avec la volonté simplement de trouver deux occurrences type pédagogie-environnement dans un corpus de 115 000 déclarations publiques. Le site internet dit public qui recense de 65 à aujourd'hui beaucoup de discours. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à aller mettre le nez dedans. C'est un matériau qui n'est pas inutile et qui est assez facilement mobilisable pour travailler. Sur cette base-là, donc, j'ai pu arriver à essayer de voir par grandes époques. Bon, j'aurais pu faire par année, mais j'ai fait par grandes époques, donc la largeur des différents bâtons de notre histogramme varie selon la durée, et on voit en bleu l'occurrence du terme pédagogie qui pendant très longtemps, jusqu'au milieu des années 90, n'est employé que en lien principalement par des ministres de l'éducation, c'est là la partie on va dire plus qualitative du travail, et puis petit à petit à partir de la fin des années 90, on va y revenir, de plus en plus le terme pédagogie est employé, mais alors là plus forcément en lien avec l'éducation des enfants, plus par des ministres de l'éducation, mais assez largement par de nombreux personnages publics, et notamment avec cette importance de la question de l'environnement qu'on voit ici. Michel Crépeau, ministre de l'Environnement 81, est à peu près le premier que j'ai réussi à identifier, qui nous parlait de pédagogie dans ce cadre-là, de associer pédagogie et environnement. Ça reste vraiment un premier effet. Ensuite, deux formules qu'on va voir, qui vont devenir complètement banales avec le temps, mais qui apparaissent au milieu des années 80-90. L'effort de pédagogie pour présenter les mesures. Aujourd'hui, il n'y a pas un discours sans ça. Le discours, ça, je crois l'avoir noté deux fois dimanche soir dans le discours du chef de l'État. Et le devoir de pédagogie, alors ça, une variation sur le devoir de pédagogie qu'on va retrouver à l'infini. Le grand développement de ce discours pédagogique, on va beaucoup l'avoir autour de Alain Juppé, qui lui-même explique qu'il a été dans ce petit texte, il explique que c'est ses séquelles d'ancienne fonction professorale exercée pendant peu de temps qui lui donne la passion de la pédagogie. Donc, pour aller un peu vite, 95-2002, on va avoir quelques grands adeptes de la pédagogie qu'il emploie avec intérêt. Jacques Chirac, donc le chef de l'État à l'époque, Pierre Moscovici, qui aime beaucoup la notion de pédagogie des questions européennes, on le retrouve dans de nombreux discours de celui qui est à l'époque le ministre des questions européennes, cela dit, Bernard Kouchner, qui aime la pédagogie des risques, et Christian Poncelet, le président du Sénat, qui parlait de pédagogie d'exemple. Ça aussi une formule qui est devenue complètement courante aujourd'hui, mais on voit que pédagogie peut s'appliquer désormais bien au-delà de la question de l'éducation des enfants. On en parle pour la défense, la géopolitique, les finances publiques, la coopération, la culture et bien évidemment l'environnement. Là, un peu comme on a dit tout à l'heure, chercher des grandes différences, la droite ou la gauche emploierait plus ce terme-là. En toute franchise, on voit très clairement que ça se développe de 1995 à 2002 de manière complètement ininterrompue, aussi bien sous le gouvernement Juppé que sous le gouvernement Jospin, sans qu'il y ait vraiment de différence. Yves Cochet, donc lui, va être un des premiers ministres de l'Environnement à vraiment défendre cette idée-là, on retrouve les déclinaisons. Ça nous montre que l'on doit tous faire des efforts dans la vie quotidienne. Et le futur ministre de l'Environnement, Serge Le Pelletier, qui tient à peu près le même type de discours à cette époque-là. Je vais essayer d'accélérer un peu. Peut-être la personne, quand on cherche, qui était le plus grand adepte de la pédagogie, c'est Nelly Olin. Peut-être certains d'entre vous ne se souviennent pas. D'ailleurs, j'ai un doute que c'est le gouvernement Raffarin. Je crois que c'est le gouvernement Villepin. Donc elle, c'était une grande adepte de la pédagogie pour l'environnement, qui a largement contribué à l'emploi de ce terme-là. Plus récemment, Chantal Jouanneau, à peu près dans le même idée, dans le même ordre d'idée, qui était une grande adepte de ça. C'est assez frappant donc, de constater que ces dernières années, le terme de pédagogie est devenu un terme employé à toute occasion, avec une idée très claire derrière, ce devoir d'expliquer aux citoyens. Ils ne sont pas, on l'a beaucoup vu sur la réforme des retraites, sur un sujet tout à fait différent de l'environnement. S'ils sont contre, c'est pas qu'ils ont des raisons d'être contre, c'est qu'ils n'ont pas compris. Donc il va falloir leur expliquer. Donc on est quand même dans une dynamique qui est partant d'un principe, on revient bien au guidage infantile, c'est quand même prendre, c'est le politique qui a quand même une logique de lecture. Nos citoyens sont des grands enfants, il faut leur expliquer. Et donc à partir de quelques années, notamment à la suite de Nelly Olin et de toute cette dynamique, et lors du passage de Chantal Jouanneau à la tête de l'ADEME, nouvelle campagne de l'ADEME, qui est en rupture complète avec toute une tradition de l'ADEME, donc l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui fait les campagnes, qui s'occupe notamment de tout ce qui est question des maîtrises de l'énergie. Un changement complet dans la façon de mettre en œuvre la forme qui jusque-là était toujours alertée sans dramatiser. Et là, on arrive sur un modèle. C'est juste un extrait. Ça ne marche pas. C'est dommage. Ah, c'est dommage. J'étais bien embêté un peu maître en plus. Bon. Ah, non. Passons. Bon, c'était un petit extrait de la campagne actuelle Faisons vite, ça chauffe. Pour faire très simple, c'est deux images extraites d'une autre partie de la campagne. Très simple. Imagerie enfantine, voix off qui parle sur un ton. Alors, attention, il faut bien faire attention à couper sa lumière. Une intonation, une rythmique qui est assez édifiante. Et puis, bon, l'opposition de choses très simples, le bonus écologique, tout va très bien. Le monde est beau. Et en revanche, le malus, oh là 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 là, il fait tout gris. Donc, on est vraiment dans la caricature manichéenne, comme de manière assez frappante, qui rompt complètement avec une culture très ancienne des campagnes sur l'économie d'énergie, qui n'ont jamais pratiqué ce type de choses assez manichéennes. Cette campagne-là est à ce titre-là, assez intéressante à observer. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu voir l'extrait, mais je vous engage tous, c'est toujours une campagne en vigueur, et je vous engage à aller la voir. Donc l'idée étant de cette campagne, l'objectif officiel était d'inciter à agir en adoptant des comportements systématiques et engageants. On reviendra tout à l'heure sur cette notion d'engagement. Là, ça nous amène un peu plus loin sur quelques idées assez larges. Aujourd'hui, très clairement, à défaut de coercition, le message d'encouragement gouvernemental s'emploie d'abord à intéresser, à enrôler, là, pour reprendre à nouveau cette formule de canon autour de ces idées de traduction. Donc, intéresser, enrôler les citoyens en s'appuyant sur les techniques classiques de marketing et de communication, on le voit clairement, une vraie délégation à des acteurs de la communication. Partant d'un principe que les politiques incitatives sont incitatives parce qu'elles ne peuvent pas être objectivement coercitives, on ne peut pas être dans un contrôle ferme de l'État. Donc là, je reprenais un principe pédagogique élémentaire énoncé par Philippe Mérieux, double principe d'éducabilité, principe de liberté. Chacun est en mesure d'apprendre et personne ne peut l'y contraindre. Donc là-dedans, on ne va pas forcément être dans un modèle qui est de contrainte à aller vers des conduites spécifiques, mais on va être vers l'encadrement de conduite. Donc c'est là où on dépasse un peu la stricte mise en œuvre de moyens de dressement tel qu'on le retrouve chez Foucault dans Surveiller et Punir. On arrive plutôt vers ce qu'il a appelé un peu plus tard l'expression d'un pouvoir pastoral, c'est-à-dire le pasteur qui est aussi ce berger qui gère son troupeau et qui ne s'emploie pas simplement à assujettir des citoyens dociles, là on reviendra à nouveau sur Surveiller et Punir, mais plutôt avec cette idée d'orienter les moralités et d'individualiser aussi ce travail-là autant que possible. Donc on passe de surveiller et punir à veiller et surveiller, double logique de protection et de contrôle. Si j'accélère, je ne suis pas très en avance. Il me reste combien de temps, le cœur ?
Ouais, en 5 minutes.
5 minutes.
D'accord, j'accélère. Donc l'enjeu n'est plus tant de procéder à un conditionnement massif, mais c'est pour évoquer donc cette question de propagande. Alors c'est toujours difficile de parler de propagande, parce que on va dire... Arrêtez-vous, Eric Potter, vous dites n'importe quoi. Propagande, le mot est trop fort. C'est-à-dire, bien évidemment, il ne s'agit pas de parler de propagande au sens classique. On n'est pas on n'est pas chez Tchakotine avec le conditionnement massif de la population, etc. En revanche, si on va regarder un papier de 52, dans le numéro 2 de la revue française de sciences politiques, de Jacques Ellul, il parle de propagande démocratique et il se pose la question à peu près dans ces termes-là, c'est est-ce qu'une propagande démocratique peut exister ? Et il voit deux exigences. D'abord, il faut que la propagande pour la démocratique elle ne soit pas le monopole de l'État. Et en ça, aujourd'hui, l'État est loin d'être le seul à mettre en place ce type de campagne-là. Il y a un ensemble de médiateurs qui travaillent avec lui, associations, entreprises. Aujourd'hui, EDF est un très acteur des économies d'énergie, fait toutes les campagnes là-dessus. On peut d'ailleurs discuter de pourquoi ils le font, mais ils sont très présents. Et bon, évidemment, une presse libre, indépendante. Donc, une volonté d'ouvrir le champ des acteurs qui peuvent porter un discours. Et elle ne doit dire que la vérité, ne s'appuyer que sur des faits. Alors là, on revient toujours à la question, qu'est-ce que la vérité ? On pourrait reparler des régimes de vérité chez Foucault à nouveau là-dessus, c'est ou de la parésia, comme il parle, c'est une nécessité de sincérité qui interroge largement par rapport à ce qu'on peut observer aujourd'hui dans les campagnes mises en œuvre. Les limites d'une propagande démocratique, cela dit, chez Jacques Ellul, il remarque quand même que l'argument en propagande n'a de caractère intellectuel qu'en apparence. Finalement, l'objectif final est quand même une adhésion de l'inconscient, généralement fort éloignée de la teneur intellectuelle de l'argument. Donc, on a un argument qui est mis en avant, mais le but serait quand même, dans sa conception, d'encadrer la conduite pas tant sur une base argumentaire que sur une base, finalement, il utilise le mot de manipulation, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais continuons. Donc la pluralité des médiateurs, on l'a évoqué, elle existe, associations, médias, entreprises, qui promeuvent l'environnement. Donc parallèlement au pouvoir public, ça suscite des réactions controversées. Ce que montre très bien Élu, on va voir ceux qui, sous l'effet de cette multiplication de normes de conduite, bon, saturation, c'est moi qui ai fait le choix d'utiliser ce mot-là, c'était des formules un peu longues, j'ai simplifié, de saturation, de distanciation, je pense que vous voyez à peu près l'idée que c'est qu'à force d'être noyé sous un type de message très normatif, il y a des prises de distance, et inversement, il y a des formes d'engagement, d'acceptation complète de cette d'une forme de propagande émise par un des canaux et qui, évidemment, pose problème. Ça m'amène à une méthodologie qui sert aujourd'hui une partie des politiques de sensibilisation, de promotion de l'État, qui est notamment menée autour des travaux de deux psychologues sociaux qu'on dit couramment théorie de l'engagement et qui a une vraie popularité auprès des financeurs de ce type de campagne-là. Donc, vraiment mise en œuvre politique d'une théorie scientifique, théorie qui a l'origine, pour ceux qui connaissent, donc théorie dite de la soumission librement consentie, on revient, c'est les fameux auteurs de ce petit traité à l'usage des honnêtes gens, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Alors toujours, on pose la question éthique, on peut certes donner les éléments de manipulation aux honnêtes gens, mais est-ce qu'ils resteront des honnêtes gens une fois qu'ils auront les outils donc, l'idée étant d'influencer les comportements individuels pour de bonnes causes. Ça pose encore une fois là, la question de quelles sont les bonnes causes, mais peu importe. Donc, l'idée étant donner l'impression aux citoyens d'avoir décidé par eux-mêmes du changement de leur pratique. Alors, c'est ce double concept, soumission librement consentie à l'engagement. On constate dans le cas de la mise en œuvre de techniques qui découlent de cette théorie, une efficacité indéniable sur le court terme. Les bilans qui en sont tirés sont indéniablement efficaces. Maintenant, il est évident que c'est une forme de manipulation discutable, à quel moment on peut réellement manipuler les gens pour leur bien, quoi. Quoi qu'on en veuille, ça reste sur un plan éthique relativement discutable. Ça m'amène, il me semblait difficile de parler de pédagogie sans parler de la conscientisation chez Paulo Freire. Paulo Freire parle de la pédagogie des opprimés, donc vu que vous aurez compris que j'ai un rapport au terme de pédagogie assez critique, je pense que l'aspect le plus intéressant chez Freire, c'est cette idée de conscientisation avec la volonté de sortir l'individu des cadres dans lesquels il est contraint. Mais là aussi, ça mériterait d'aller un peu plus au fond et on est un peu pressé. Donc, toujours cette question-là, au nom de quoi on le fait, avec quelle légitimité, dans quel but et sur quelle base éthique, ce qui pose cette question éthique. Et je reprenais cette situation de John Stuart Mill qui conclut son ouvrage classique, un État qui rapetisse les hommes afin qu'ils puissent être entre ses mains les instruments dociles de ses projets, même bienfaisants. S'apercevra qu'on ne peut faire de grandes choses avec de petits hommes et que la perfection du mécanisme à laquelle il a tout sacrifié finira par ne lui servir à rien. J'ai le sentiment que, voilà, avec 150 ans d'écart, la phrase est dit à peu près très justement ce qui nous intéresse. Pour essayer de conclure à peu près, donc, ces effets incertains d'un gouvernement des pratiques, aujourd'hui, donc, pour citer en partie mon éminent collègue absent aujourd'hui, Yannick Rumpala, qui parle, lui, sur ces questions-là d'autocontrôle et d'autocontrainte dans le cadre d'un arrière-plan cognitif responsabilisant, je le cite à peu près de tête. C'est à peu près une idée assez proche qu'on voulait défendre ici, avec cette idée de dire, aujourd'hui, au nom de quoi cette pédagogie se fait, dans quel cadre éthique, et qu'est-ce qu'elle pose comme question aussi au regard de la façon dont on perçoit le citoyen adulte, rappelons-le, doté de droits civiques, en l'infantilisant en partie, en le ramenant à cette activité de guidage infantile. Donc, pour ramener quelques aspects un peu extérieurs, profusion, confusion, ça c'est ce qu'on a largement pu voir. Aujourd'hui, l'État est loin d'être le seul à mettre en place ce type de discours-là. Il est largement aidé par aussi bien les médias que le monde associatif, que le monde de l'entreprise. Et cette multiplication de médiateurs génère des interférences, de l'incompréhension, de l'agacement, du refus, d'autant que le recours, ça j'avais déjà eu l'occasion de l'écrire par le passé, avec des logiques modales assez différentes, forte dimension déontique, il faut, nous devons, dans la construction argumentaire, suscite de l'incompréhension, de l'agacement, du refus. Donc des réticences face aux normes d'usage, avec une critique parfois d'un dogmatisme militant, ça va être la parole portée par le monde associatif, de la tendance, la suspicion de greenwashing, donc cette façon des entreprises de promouvoir l'environnement et de se mettre en scène, et donc l'ingérence étatique. Pour finir quand même, on avait démarré avec une photo de Nicolas Sarkozy, on va finir avec une photo de Michel Foucault. Donc voilà, selon que l'individu choisisse de se soumettre à ce code de conduite qu'il aurait proposé ou qu'il s'y refuse, la moralité et le comportement varient du fait des marges de variation, de transgression que tout un chacun fait valoir face au système prescriptif. Donc, plus largement, donc, bien des incertitudes perdurent quant à l'enracinement d'une pratique et d'une éthique écologiquement orientée et qui nous pose réellement question par rapport à cette dynamique de certainement pas d'infantilisation, mais la volonté de guider un citoyen qui ne serait pas tout à fait capable de se prendre des décisions par lui-même pose largement question dans cette mesure. Je m'arrête là.
Merci.